pourrions lire un premier verset ou deux premiers versets dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. Versets 22 et 23. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Dans la deuxième épître à Timothée. Chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Encore dans le livre des juges, chapitre 7, la fin du verset 16. Des cruches vides et des torches dans les cruches. La fin du verset 19. Et ils sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Et les trois corps sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 23, les croyants sont comparés à des vases de miséricorde. La miséricorde de Dieu s'est exercée envers nous qui étions des pécheurs, et se poursuit la miséricorde de Dieu à l'égard du croyant pendant toute sa vie. La miséricorde, cela signifie que Dieu est sensible à notre misère. Dieu a un cœur qui est sensible à notre misère. Et si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons la vie en Christ, eh bien, ce n'est que par miséricorde. La miséricorde de Dieu s'est exercée à notre égard. Et nous pouvons comprendre que un vase, comme il nous est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous sommes des vases de terre, c'est-à-dire des vases qui sont fragiles. Un vase de terre s'ébrèche facilement. Et il peut se briser rapidement. Et si nous connaissons notre condition d'êtres humains et nous pouvons passer à travers des épreuves douloureuses dans nos familles ou bien quant à nous-mêmes, nous pouvons souffrir de différentes maladies, et nous réalisons à ce moment-là que vraiment nous sommes des vases de terre. Mais ce qui est de tout à fait remarquable, ces vases de terre, eh bien, ce sont des vases de miséricorde. Et Dieu a égard à notre condition. Dans l'Épître aux Romains, nous voyons qu'il est parlé aussi au verset 22 des vases de colère. Et les vases de miséricorde, il nous est dit que Dieu les a préparés d'avance pour la gloire. Mais les vases de colère, il ne nous est pas dit qu'ils sont préparés par Dieu pour la destruction. Il faut faire bien attention à la différence entre les deux expressions et ce qu'il y a écrit avec exactitude, c'est-à-dire que Dieu ne prépare pas des vases pour la destruction et des vases pour la miséricorde. Nous savons que Dieu, et c'est quelque chose qui traverse les Écritures, supporte les méchants avec une grande patience. Et ces méchants, souvent, eh bien, ils sont en opposition avec Dieu. Et ce sont eux qui endurcissent leur cœur contre lui. Nous pouvons penser au Pharaon, et il y a d'autres exemples. Le Pharaon d'Égypte, il y a d'autres exemples aussi dans la parole de Dieu. Alors, il y a dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a quelque chose d'un enseignement tout particulier dans ce chapitre 4 à propos des vases de terre. Ce que nous avons lu, c'est que dans ces vases de terre, nous avons un trésor. Et ce trésor, c'est Christ lui-même. Et ce trésor, c'est la lumière de Christ qui doit briller à l'extérieur du vase. Et dans les premiers chapitres de cette deuxième épître aux Corinthiens, il nous est parlé de ce qu'on appelle le ministère. Et l'apôtre Paul nous parle de son ministère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ministère et des ministres ? Un ministère, c'est un service. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu. Et l'apôtre nous parle de ce qu'est un service, de ce qu'est un ministère, de ce qu'est un ministre qui va remplir le service pour lequel il a été appelé. Et ce ministre, pour exercer ce service pour lequel Dieu l'appelle, eh bien, il y a des conditions. Et ces conditions, elles sont énumérées, il faut bien lire attentivement dans les premiers versets du chapitre 4, ces conditions donc sont énumérées. Alors nous lisons en particulier au chapitre 4 au verset 1, c'est pourquoi ayant ce ministère, comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une tâche à chacun de nous. Et il nous est dit, ayant obtenu miséricorde, en même temps qu'il donne une tâche à chacun de nous, un service, eh bien, il nous donne toute la miséricorde nécessaire pour effectuer cette tâche pour laquelle il nous appelle. Et la première de ces conditions pour exercer donc ce service, ce ministère pour les apôtres et pour chacun de nous, eh bien, nous voyons que la première condition, c'est que le vase soit propre. Il nous est dit, verset 2, « Nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. » Voilà la première condition pour un serviteur, pour exercer le service pour lequel il a été appelé. Il faut que le vase soit propre, c'est-à-dire que chacun de nous, homme ou femme, on peut être un serviteur ou une servante, ayant renoncé aux choses honteuses qui se font dans le secret. C'est-à-dire des choses honteuses, ce sont des choses moralement scandaleuses. Et ensuite, nous voyons, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un serviteur doit marcher sans ruse, avec droiture et avec honnêteté. Et la troisième condition, c'est sans altérer ni dénaturer la parole de Dieu. C'est-à-dire découper droit la parole de Dieu. Donc la première condition, c'est de que nous soyons tous des vases propres. Des vases nettoyés, des vases qui vont être ainsi préparés et utiles au maître pour être employés. Au verset 5, nous voyons la deuxième condition pour exercer un service de la part de Dieu, de la part du Seigneur, c'est que le vase soit vidé. Et pourquoi nous pouvons dire cela de ce verset 5 ? Alors nous disons, c'est l'apôtre qui parle, et qui parle de tous les apôtres, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Les apôtres réalisaient qu'ils étaient des esclaves. Et un esclave, il doit être vidé de lui-même. Il ne doit prendre aucune initiative par lui-même. Il doit attendre les ordres du maître. Et nous voyons bien que la deuxième condition pour exercer un ministère, un service de la part de Dieu, c'est que nous soyons des vases vidés de nous-mêmes. Un peu plus loin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous voyons une expression qui correspond, qu'emploie l'apôtre Paul, de Corinthiens 12, à la fin du verset 11, l'apôtre dit « Quoique je ne sois rien, quoique je ne sois rien. » Nous avons lu tout à l'heure que nous avons ce trésor dans des vases de terre. Si nous sommes des vases pleins de nous-mêmes et non pas des vases vidés de nous-mêmes, ayant une bonne opinion de nous-mêmes, eh bien, le Seigneur ne peut rien mettre dans ce vase. Un vase plein, vous pouvez essayer d'y ajouter quelque chose, on ne peut rien y mettre dedans. Donc nous voyons que la condition, cette condition nouvelle pour être utile au maître, c'est de ne pas être des vases pleins de nous-mêmes, mais des vases qui ont été vidés de eux-mêmes, réalisant que nous ne sommes rien. Et c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir mettre dans ces vases Christ lui-même, afin que quand ces vases seront brisés, eh bien la lumière de Christ brille autour de nous. Donc la troisième condition, la première, je rappelle, c'est des vases propres. La deuxième condition, des vases vidés d'eux-mêmes. La troisième condition, c'est des vases remplis de Christ. Des vases qui sont occupés du Seigneur Jésus, qui ont à cœur ses intérêts. Et maintenant, ces vases qui sont propres, qui ont été nettoyés, qui ont été vidés, qui ont été remplis de Christ, eh bien, Dieu s'emploie à les briser. C'est-à-dire, Dieu veut que, à travers toutes les épreuves que nous traversons, toutes nos difficultés, eh bien, Dieu désire le brisement de nous-mêmes afin que l'éclat de la lumière de Christ brille autour de nous. Alors, quels moyens Dieu emploie pour que nous soyons des vases brisés. Alors nous l'avons lu tout à l'heure, il nous est dit la tribulation, c'est-à-dire les épreuves, la persécution et la perplexité, c'est-à-dire des fois nous ne savons pas quel chemin choisir. Les difficultés sont tellement importantes autour de nous, tout ce qui gravite autour de nous, nous sommes en pleine incertitude, eh bien, nous sommes dans la perplexité, ensuite persécutés, mais pas abandonnés, abattus. Quelquefois, nous sommes découragés, abattus. Ensuite, nous voyons qu'ainsi nous pouvons porter partout la mort de Jésus dans notre corps. Donc nous voyons que Dieu utilise différentes choses qui nous arrivent dans la vie pour nous briser, la tribulation, nous l'avons dit, la perplexité, le point d'interrogation, la persécution, l'abattement, le découragement. Et pourquoi ? Eh bien, c'est pour que la lumière de Christ brille autour de nous. Quand le vase est brisé, eh bien, Christ va pouvoir être manifesté en nous, en traversant avec lui toutes ces difficultés. Nous devons réaliser l'insignifiance de ce qu'est un vase de terre. Nous avons besoin de réaliser, c'est peut-être des paroles difficiles à entendre, ou des paroles qui sont lourdes de sens pour chacun de nous. Mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si nous sommes des vases de miséricorde, eh bien, Dieu va utiliser justement ces vases pour manifester l'excellence de la personne de Christ. Mais cette excellence de la personne de Christ ne peut être montrée qu'à travers notre propre brisement. Encore un mot sur la deuxième épître à Timothée. De Timothée, chapitre 2. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Alors là, la question qui est évoquée dans ce verset de 2 Timothée, c'est: est-ce que nous désirons être un vase à honneur pour le maître? Est-ce que nous désirons être un vase sanctifié, mis à part pour le maître? Est-ce que nous désirons être un vase à honneur qui sera utile au maître? Est-ce que nous désirons être ce vase qui a été préparé, qui a été nettoyé, qui a été vidé de lui-même, qui a été rempli de Christ, qui a été brisé et ainsi préparé pour toute bonne œuvre? Est-ce que nous désirons servir Christ? Et l'enseignement de Paul nous montre que il y a tout ce travail préparatoire. Et si nous lisons attentivement la parole de Dieu, elle ne se contredit jamais, et nous voyons que il y a certaines conditions pour qu'un serviteur soit utile au maître. Et pour être un vase à la disposition du maître, eh bien, quelquefois, il se faut se séparer de vases à déshonneur et s'éloigner d'eux parce que, par leur association, nous pouvons être disqualifiés au service du maître. Est-ce que nous désirons être des vases à honneur, utiles au maître, préparés pour toute bonne œuvre? Voilà la question que chacun de nous pouvons nous poser. Alors juste dans les juges, on peut se poser la question si l'enseignement de Paul de 2 Corinthiens 4, est-ce qu'il ne fait pas allusion justement à cet écrit de l'Ancien Testament des juges? On peut sans doute trouver des similitudes et trouver un enseignement qui est très proche. Alors dans les juges au chapitre 7, il nous est parlé de cruches vides et des torches dans les cruches. Les cruches, ce sont des vases de terre, hein, bien sûr. Eh bien, nous pouvons répéter que ici il s'agit de combat. Dans Juges 7, il s'agit de combat. Dans 2 Corinthiens 4, il nous est montré les conditions morales et cette préparation pour être des vases utiles au maître. Dans les juges, c'est un exemple de vases qui vont combattre, qui vont combattre peut-être pour l'honneur de Christ, qui vont combattre le bon combat de la vérité. Eh bien, nous voyons le même enseignement, des cruches vides, vides d'eux-mêmes, avec les torches dans les cruches. Et ces torches, eh bien, il faut qu'elles soient brisées, comme il nous est dit à la fin du verset 19. Ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Et voilà, si nous lisons attentivement ce qui nous est dit dans Juges 7, nous voyons que le combat, ce sera une victoire, mais dans la mesure, les combats, ce seront des victoires dans la mesure où nous retiendrons ces enseignements de la parole de Dieu.
Peut-être encore très très rapidement, nous avons fait référence à la notion de miséricorde. Et pour les plus jeunes, pour les enfants, c'est un terme qu'on utilise assez fréquemment. Et on l'a dit, c'est en référence à Dieu qui tient compte de nos misères. Et je voudrais qu'on lise le psaume 78, une courte expression du psaume 78. Psaume 78, on peut lire le verset 35. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et Dieu, le Très-Haut, leur Rédempteur. Et un tout petit peu plus loin, au verset 38, « Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l'iniquité et ne les détruisit pas, mais il détourna souvent sa colère et n'éveilla pas toute sa fureur. » On a une autre facette là pour les enfants de la miséricorde. On a affaire à un Dieu qui tient compte de nos misères et qui pardonne abondamment, ou qui pardonne souvent. Qui pardonne surtout peut-être pas comme nous. Est-ce qu'on arrive à pardonner souvent? C'est une question qu'on peut se poser. On peut pardonner peut-être une fois, deux fois, trois fois sous condition. Là, je veux bien pardonner si la personne reconnaît, si la personne me dit ça, ou si elle fait ci, elle fait ça. Mais heureusement pour nous, nous avons affaire à un Dieu miséricordieux qui pardonne abondamment. Peut-être même il nous arrive parfois de nous dire « Mais Dieu est Père, pourquoi tu pardonnes cela ?» Ça peut paraître surprenant. On a un exemple dans la parole, on peut peut-être le prendre, c'est celui de Jonas. Jonas au chapitre 3, on peut lire au verset 10 « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et ne le fit pas. » Et au chapitre 4, « Mais Jonas trouve cela très mauvais !» Et il fut irrité. Et il pria l'Éternel et dit, « Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et tu te repens du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Et l'Éternel dit, « Fais-tu bien de t'irriter. » Et au verset 9, « Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du quiquajon ?» Et il dit, « Je fais bien de m'irriter, jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du quiquajon, pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître. Qui naît en une nuit a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il n'y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. » Voilà notre trait de notre Dieu sauveur, un Dieu miséricordieux qui tient compte de nos misères et qui pardonne abondamment. D'ailleurs, n'était-ce pas un des paroles d'un cantique qui nous arrive de chanter, « Car dans le ciel, il n'est qu'un souvenir, le souvenir de ta miséricorde. »
Strophes 2 et 3 du 209.
209, strophes 2 et 3.